Bonjour Tiffaine, et toujours dans le cadre de notre semaine américaine sur France Culture, à l'approche des élections, nous parlons aujourd'hui du roman Le complot contre l'Amérique de l'écrivain Philip Roth.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Que nous disent les fictions des Américains sur la politique de leur pays ? Pas tant sur telle ou telle élection en particulier, mais sur la démocratie états-unienne elle-même, son fonctionnement et la perception que ses écrivains et scénaristes ont d'elle. L'Amérique se veut en effet le héros de la démocratie, bien qu'elle ait parfois flirté, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, avec l'autoritarisme, le populisme et bien entendu le racisme, comme nous allons le voir toute cette semaine à travers différentes œuvres. Avec un premier temps consacré hier au film de Frank Capra, Mr. Smith au Sénat, dans lequel un citoyen sans habitude de la politique se voit propulsé sénateur et cherche à faire triompher son idéalisme. Et puis nous poursuivrons notre exploration des démons de l'Amérique demain par l'étude du roman controversé de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent. Et puis jeudi, par un retour sur la série House of Cards, à laquelle la mandature de Trump a semblé redonner une certaine actualité. Et aujourd'hui,
The 1940 Republican Convention. My brother and I went to sleep that night, Thursday, June 27. While the radio was on in the living room, and our father, our mother, and our older cousin Alvin sat listening together to the live coverage from Philadelphia. After six ballots, the Republicans still hadn't selected a candidate. Lindbergh's name was yet to be uttered by a single delegate, and because of an engineering conclave at a Midwestern factory where he'd been advising on the design of a new fighter plane, he wasn't present or expected to be.
Aujourd'hui, pour évoquer le livre de Philip Roth, Le complot contre l'Amérique, dont nous venons d'entendre un extrait ici lu par l'auteur, nous sommes avec vous, Paul Lévy, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes professeur de littérature américaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez rédigé l'introduction de l'édition de la Pléiade des romans et nouvelles des années 59-77 du XXe siècle de Philip Roth. Vous êtes aussi l'autrice d'un essai sur lui, American Pastoral, la vie réinventée, c'était en 2012 au PUF. American Pastoral, la pastorale américaine, c'est justement le premier volume de sa trilogie américaine de la fin des années 90. Il y avait la pastorale américaine en 97, J'ai épousé un communiste en 98 et puis La tâche en 2000, roman auquel on pourrait donc ajouter dans la même veine Le complot contre l'Amérique dont on va parler en particulier. Mais avant cela, j'aimerais bien revenir un petit peu avec vous justement sur ce cycle américain de Philip Roth. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire comme ça de but en blanc, Paul Lévy ?
Je crois qu'on pourrait presque dire que de roman en roman et dès ses débuts en fait, Philip Roth compose une vaste fresque de l'Amérique, en fait, depuis les années 40-50 jusqu'au tournant du siècle.
Même les premiers livres qui paraissent beaucoup plus centrés sur la communauté juive et puis sur ses propres questionnements personnels.
Bon, les romans du début sont plus narcissiques, disons, plus métafictionnels aussi. Il y a une réflexion sur la littérature, sur le statut de l'écrivain juif aux États-Unis, sur le rôle qu'il doit jouer, la voie qu'il doit adopter. Mais par la suite, il y a vraiment un regard très critique, très satirique que l'auteur pose sur la société américaine. Mmh. Et bon, ce que je voudrais dire en préalable tout de même, c'est que Roth aime l'Amérique. Il l'aime profondément. Il se sent américain pleinement et de façon tout à fait assumée.
Pourquoi est-ce que c'est important de le préciser ?
Parce que le regard qu'il pose sur son pays natal, bien-aimé, est tellement caustique et tellement grinçant, avec un humour tellement corrosif. Et en fait, je dirais que dès les années 70, L'escalade de la guerre au Vietnam, les dérives de l'administration Nixon l'amènent à se tourner vers la satire politique. Et Ross est beaucoup trop lucide, beaucoup trop pessimiste aussi pour voir dans la satire un moyen de réformer la société. Il sait bien que ses romans ne changeront rien à la réalité américaine, mais pour lui, la satire, c'est un moyen d'exprimer une colère. Oui. Et ça, c'est un terme sur lequel il insiste. La satire, c'est l'expression d'une colère.
Alors, on peut prendre un exemple, parce que dans une de ces satires politiques, Tricard Nixon et ses copains...
J'allais en parler.
Alors, allez-y, dites-nous un peu de quoi il s'agit, et puis surtout, comment est-ce qu'il a eu envie, qu'est-ce qui fait qu'il a eu envie d'écrire cette espèce de pamphlet?
Oui, alors c'est un pamphlet contre le président Nixon et contre les dérives de l'administration Nixon.
Alors parce qu'il avait fait en particulier cette espèce de chose étrange de libérer le lieutenant William Calley, alors que parallèlement il disait qu'il ne fallait pas faire d'avortement. Or, le lieutenant William Calley, excusez-moi, je raconte du coup un petit peu à votre place Paul Lévy, c'est quelqu'un qui avait été condamné pour le meurtre de 22 civils vietnamiens. Donc d'un côté, il était pour la vie, mais de l'autre côté, ça ne le gênait pas beaucoup qu'on tue 22 civils comme ça de manière impunément.
Oui, pardon. Donc Tricard Nixon et ses copains, Our Gang en anglais, c'est vraiment un ouvrage très court, très très caustique, où il se moque justement de l'hypocrisie du président Nixon, de sa rhétorique retorse, perverse. Et il ne trouve pas de mots assez durs, en fait, pour fustiger la corruption des politiques, pour fustiger les perversions de la démocratie américaine, et surtout pour fustiger aussi la vulgarité. La vulgarité des médias, la vulgarité des clichés déversés par les médias et par les hommes politiques aussi, bien souvent, hélas.
C'est pour ça qu'il disait « J'ai voulu briser la cuirasse de dignité qui protège celui que la présidence des États-Unis investit d'un immense pouvoir, lui attribuer un accoutrement de clown. »
Absolument.
Il s'agit vraiment d'une satire qui vise à se moquer et qui vise à finalement donner une idée de l'Amérique qui serait différente. Mais quelle idée de l'Amérique ?
On est dans le burlesque, on est dans le grotesque, on est dans la farce. Our Gang, ça reste tout de même un ouvrage très mineur, mais Philip Ross continue dans cette veine l'année suivante, en 1971, avec le grand roman américain, où là c'est une fable qui mêle la politique et le baseball. Et à nouveau, on est dans une veine explicitement burlesque, grotesque. Les personnages sont des pantins, ils se livrent à des gesticulations absurdes, leur rhétorique est creuse, vide. Voilà.
C'est des histoires de baseball aussi, non ?
Oui,
grand
voilà.
Sport de l'Amérique.
Voilà. Et bon, bien sûr, à travers le baseball, c'est tout un pan de la culture américaine qui est tourné en dérision.
Qu'est-ce que ça raconte un petit peu ce livre ?
C'est complètement loufoque. Il suit une équipe de baseball, une équipe fictive, bien sûr, qui est composée d'estropiés, d'imbéciles, et qui se trouve pris dans des circonstances absurdes. Enfin, c'est vraiment... On ne peut pas parler d'intrigue au sens sérieux du terme, je pense. Ces deux ouvrages restent des ouvrages mineurs. Mais quand il en parle, Philip Ross dit, a posteriori, il dit « Ce sont deux coins que j'ai enfoncés dans l'énigmatique réalité américaine. » Ces mots sont de lui, l'énigmatique réalité américaine. Et ce sont deux ouvrages qui, bien sûr, préfigurent cette somptueuse trilogie américaine des années 90 avec les romans que vous venez d'évoquer, donc American Pastoral, qui met en scène les années 60, la contestation contre la guerre du Vietnam dans les années 60-70. J'ai épousé un communiste qui évoque les années macartistes et La Tâche, où il est question, dont la toile de fond, disons, est l'affaire Clinton-Levinsky et surtout le déferlement de la political correctness sur les campus américains.
Le politiquement correct. On va écouter Philip Ross, interrogé par Alan Finkielkraut, nous parler justement de la pastorale américaine.
La pastorale américaine
has a slightly different implication.
A, disons, des connotations, des implications différentes. C'est-à-dire que dans le mot pastoral, il y a finalement cette notion d'ordre et de sérénité. Ce qui fait que ce n'est pas l'idée d'une ambition fulgurante, c'est le rêve américain, lui, est plein d'ambition et la récompense de cette ambition. Ça, ce sont d'ailleurs des réalités américaines. Aujourd'hui, les mots sont tellement galvaudés qu'ils ont perdu leur sens, mais la réalité est toujours là. C'est-à-dire que le travail, l'ambition vous amène à quelque chose. En tout cas, vous avez la possibilité d'y arriver. La pastorale américaine ne s'intéresse pas tellement à cette ambition, mais plutôt à la nature de la récompense. Et il y a un ordre serein, dirais-je. C'est-à-dire qu'on a l'idée que les choses sont maîtrisées. Et donc, il y a finalement deux choses, l'ordre d'une part, et d'autre part, la maîtrise.
Entretien de 1999. Quelle est la différence entre le rêve américain et la pastorale américaine, Paul Lévy?
Dans l'extrait que nous venons d'entendre, Philip Ross ne semble pas faire beaucoup de différence.
Un petit peu quand
même. Le rêve américain, c'est celui qu'on connaît. Hein. Ce sont les droits garantis par la Déclaration d'indépendance, « Life, Liberty and the Pursuit of Happiness ». La vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Et ce que Ross appelle la pastorale, c'est vraiment un état idyllique, si vous voulez. Un état idyllique qui compare presque, c'est ce qu'il fait à la fin de La Contre-vie, hein, son roman La Contre-vie, à la sérénité du nourrisson dans l'utérus maternel. C'est-à-dire un état où n'existe aucune contradiction, aucun paradoxe, hostilité, état de sérénité, de paix absolue.
Donc c'est une illusion.
Bien sûr.
C'est l'illusion dans laquelle se trouve cette famille bourgeoise dont l'enfant, qui a été la fille adorée, va devenir une terroriste, ou en tous les cas va être enrôlée par les terroristes.
Bien sûr, bien sûr.
Donc il s'agit de briser cette idée confortable, finalement, qu'il ne peut pas y avoir vraiment de chaos dans une famille de la banlieue bourgeoise américaine?
Oui, en fait, c'est l'histoire qui vient briser, qui déferle sur l'Éden pastoral et qui vient réduire à néant toutes les valeurs auxquelles les personnages mis en scène ont cru, toutes celles sur lesquelles ils ont construit leur vie. Et pour Philip Ross, l'histoire, c'est l'irruption de l'imprévisible dans le cours usuel des choses.
Pourquoi est-ce qu'il est en colère, selon vous, Philip Ross?
Il est en colère quand il voit les dérives, les travers, les avatars tantôt sinistres, tantôt burlesques de la démocratie américaine. Mmh. Les choses que, par exemple, dans La Tâche, il est révulsé par le politiquement correct, par toute cette hypocrisie, toute cette langue de bois qu'il voit comme vraiment une atteinte à la liberté de penser la plus élémentaire.
Est-ce que c'est ça qui a fait qu'on considère ou qu'on a pu considérer Philip Ross comme un écrivain un peu réactionnaire?
On a considéré Philip Ross comme un écrivain réactionnaire.
Vous ne croyez pas?
Je pense qu'on a surtout, ce qui a surtout heurté peut-être certains critiques, surtout dans récemment, c'est peut-être la façon dont il campe ses personnages féminins. Il a beaucoup irrité les féministes, donc c'est peut-être de ce point de vue-là qu'on a vu en lui un écrivain réactionnaire. Mais je crois que vraiment Philip Ross Enfin, c'est à double face. Enfin, il y a à la fois une ferveur pour l'Amérique, enfin, un amour de l'Amérique et en même temps une lucidité. Il la voit telle qu'elle est, avec sa face sombre.
Il y a une volonté de casser les mythes aussi.
Oui, ça vraiment, la marque de fabrique de Philip Roth, c'est de s'en prendre au tabou, au cliché, à la bien-pensance. Il dit en fait, il faut démythologiser pour dépathologiser. Donc, c'est vraiment de débouter les mythes et les idées reçues, les idées toutes faites, les préjugés.
C'est les mythes un peu au sens de Barthes ?
Non, je ne dirais pas ça. C'est vraiment les mythes américains, je crois. Vraiment, c'est comme ça qu'il l'entend.
Et alors, ce serait quoi ces grands mythes américains ?
Le mythe démocratique, le mythe de l'Amérique comme terre promise, comme terre qui a tenu ses promesses, en particulier pour, dans ce roman, le complot contre l'Amérique, pour les Juifs américains, le mythe de la liberté.
On va écouter justement un extrait du complot contre l'Amérique pour entrer un peu davantage dans ce roman où il réalise ses plus noirs fantasmes.
C'est la peur qui préside à ses mémoires, une peur perpétuelle. Certes, il n'y a pas d'enfance sans terreur. Mais tout de même, aurais-je été aussi craintif si nous n'avions pas eu Lindbergh pour président, ou si je n'étais pas né dans une famille juive ? Lorsqu'en juin 1940 survint le premier choc, avec la Convention républicaine de Philadelphie, qui se choisit pour candidat à la présidence le héros américain et aviateur mondialement connu Charles A. Lindbergh, mon père avait 39 ans. Agent d'assurance, il avait quitté l'école à la fin de la quatrième et gagné un peu moins de $50 par semaine. De quoi assurer le quotidien sans trop de superflu. Ma mère, qui n'ayant pu s'inscrire faute de moyens à l'école d'institutrice au sortir du lycée, avait fait du secrétariat quand elle vivait encore chez ses parents, au plus noir de la crise. Elle nous avait épargné le sentiment de la pauvreté, gérant la paye que mon père lui rapportait le vendredi soir avec la même efficacité qu'elle mettait dans la tenue du ménage. Elle avait 36 ans. Mon frère Sandy, jeune prodige du dessin, avait 12 ans et il était en cinquième. Quant à moi, au cours élémentaire deuxième année, avec un trimestre d'avance, j'étais philatéliste en herbe, inspiré comme des millions de gosses de mon âge par le plus éminent d'entre eux, le président Roosevelt. J'avais 7 ans.
Compagnie des œuvres sur France Culture avec les premières lignes du complot contre l'Amérique, lu ici par Eric Caravaca, un roman, Le complot contre l'Amérique, Paul Lévy, où le narrateur est un enfant et cet enfant n'est autre que Philip Roth. On va peut-être revenir sur ce point-là, mais d'abord, est-ce qu'on doit le croire, ce narrateur, Philip Roth, quand il dit qu'il a vécu enfant dans une peur perpétuelle? Est-ce que là, c'est de la fiction ou est-ce que c'est de la réalité?
Donc là, vous me parlez non pas du narrateur du complot contre l'Amérique, mais de Philip Roth, l'auteur.
Oui.
En fait, je crois qu'il faut nuancer. Philip Roth grandit donc dans une famille de la petite bourgeoisie. Son père, on l'a entendu, est agent d'assurance, comme il le dit du reste dans le roman. Il vit à Newark, New Jersey, c'est une petite ville portuaire et industrielle, et il vit dans un quartier à dominance juive, qu'il dépeint en fait comme une enclave très protégée contre un antisémitisme qui existe encore en Amérique, en Amérique, mais lui vit dans ce qu'il considère comme cette enclave protégée. Il mentionne l'antisémitisme. Il dit à l'époque, il y avait des figures très éminentes du monde politique ou du monde des affaires qui étaient très ouvertement antisémites. Je pense à Ford, je pense bien sûr à Lindbergh, l'aviateur, mais également à Kennedy, Joseph Kennedy, le père du futur président. Donc l'antisémitisme était vraiment une réalité concrète aux États-Unis, mais dont lui s'est toujours senti en quelque sorte protégé.
Alors c'est ça, parce que dans une autre de ses autobiographie d'un romancier paru en 1988, il soulignait au contraire combien son enfance avait été non pas marquée par la peur, mais plutôt merveilleuse, et avec un sentiment justement de sécurité. Donc on ne sait plus très bien dans quelle autobiographie il faut croire Philip Roth.
Dans aucune des deux. Parce que Philip Roth, comme vous savez, se plaît à inventer des contre-vies. Hein, et l'autobiographie dont vous parlez, Les Faits, dont le sous-titre est « Autobiographie d'un romancier », donc déjà le sous-titre introduit le paradoxe, n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et du reste, à la fin des faits, surgit une lettre de Nathan Zuckerman, qui est un personnage, qui est le double fictionnel de Philip Roth, et qui dit à l'auteur des faits, « Ne publie pas, c'est vraiment pas bon ». Donc, vous voyez, à l'intérieur même de cet ouvrage que vous évoquez, il y a déjà de l'ironie.
Mais vous, vous avez l'impression, alors qu'il faut croire quand même à un Philip Roth qui souffre quand même d'une espèce de climat de peur dans la deuxième partie des années 30, ou alors est-ce que son personnage sur ce point n'est pas vraiment, ne colle pas tellement à la réalité qu'il a vécue?
La réalité. Je crois que chez Philip Roth, c'est un mot qu'il faut prendre avec des pincettes. Je dirais presque qu'il faut mettre entre guillemets. Écoutez, je pense que non, ce qui ressort de ces entretiens, c'est vraiment ce sentiment d'une enfance protégée. Vraiment. Même s'il a par ailleurs conscience d'un antisémitisme qui est latent, qui est diffus, mais qui est bien présent dans la société américaine. Par exemple, il y a des quotas en ce qui concerne l'entrée des Juifs à l'université. Voilà.
Alors, il faut rappeler quand même un petit peu...
Dans les années 40.
Hein. Ouais. À quoi ressemble cette ville de Newark, qui est une ville très multiculturelle.
Oui.
Il y a absolument... quasiment toute l'Europe qui se retrouve à Newark.
Absolument. Oui, c'est une extraordinaire diversité ethnique. Hein. Il y a des Irlandais, des Italiens, il y a des Polonais. Et tout ce petit monde vit côte à côte, sans vraiment se mélanger, à vrai dire. Hein. En tout cas, le petit monde de Philip Roth est un monde juif. Hein. Voilà.
Ne manque que les Français et les Espagnols.
Oui, tout à fait.
Pour recréer finalement une vraie Europe. Je vous propose de continuer à écouter ce qui sera un petit peu notre fil rouge, des extraits du complot contre l'Amérique, et puis on va rentrer un petit peu davantage dans ce roman.
Le fait que Lindbergh n'ait pas parlé des Juifs dans son discours d'investiture pouvait être de bon augure, me disais-je. Signe qu'il avait été rappelé à l'ordre par le tollé qu'il avait contraint à abandonner son poste dans l'armée, ou bien qu'il avait changé d'avis depuis le discours de Des Moines, voire qu'il nous avait déjà oubliés, ou enfin qu'en son fort intérieur, il savait fort bien que notre sort était indissociable de celui de l'Amérique. Car si les Irlandais demeuraient attachés à l'Irlande, les Polonais à la Pologne et les Italiens à l'Italie, nous n'avions conservé aucun lien, sentimental ou autre, avec les pays du vieux monde où nous n'avions jamais été bien accueillis et n'avions nulle intention de retourner jamais. Si j'avais pu formuler explicitement ce que ce moment signifiait, voilà sans doute ce que j'aurais dit. Mais les hommes descendus dans la rue tenaient un autre raisonnement. Pour eux, le fait que Lindbergh n'ait pas parlé des Juifs s'inscrivait dans une campagne de perfidie destinée à nous faire taire pour mieux nous prendre par surprise. « Hitler en Amérique !» criaient nos voisins. « Le fascisme en Amérique, des SS en Amérique !» Après cette nuit blanche, nos aînés en plein désarroi imaginaient tout et le reste et ne se privèrent pas de le dire à haute et intelligible voix, au risque d'être entendus de nous, avant de rentrer chez eux en ordre dispersé, tandis que les radios continuaient à brailler, les hommes pour se raser, s'habiller et avaler une tasse de café avant de partir au travail, les femmes pour habiller leurs enfants, leur faire le petit déjeuner et les préparer.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et ce nouvel extrait du complot, lu cette fois par Stéphane Valency. Alors racontez-nous un petit peu, Paul Lévy, quelle est l'intrigue, quelle est l'histoire de ce roman qui met en scène un aviateur qui a vraiment existé, Lindbergh.
Est-ce qu'il faut commencer par parler de Lindbergh, personnage historique ou...
Oui.
Oui. Alors, le Lindbergh réel, si je puis dire, c'est un aviateur très célèbre puisque c'est le premier qui traverse l'Atlantique en solitaire en avion. Il part du New Jersey, il atterrit à Paris 33 heures plus tard et bien sûr, il est acclamé comme un héros. Donc, il jouit d'une immense popularité et une popularité qui va s'accroître du fait d'un drame familial qui connaît, enfin, dont les médias vont faire leur miel, si je puis dire.
Oui, parce qu'il est terrible.
Voilà. Donc, en fait, en 1932, si je me trompe pas, son bébé de 2 ans est enlevé dans sa propriété du New Jersey. Et le corps du bébé en décomposition est retrouvé quelques semaines ou quelques jours plus tard. Donc, effectivement, les médias suivent cela de très près. Enfin, Lindbergh incarne le héros meurtri dans sa chair, le héros martyr, en quelque sorte.
Et l'Amérique a beaucoup d'empathie pour le couple, et en particulier pour la femme de Lindbergh, qui, par ailleurs, est une personnalité aussi, puisqu'elle a écrit un livre qui s'est énormément vendu.
Oui, alors sa femme est elle-même une excellente aviatrice, hein, et donc c'est une aviatrice très admirée également. Et elle est par ailleurs, elle publie des ouvrages. Je dirais pas que c'est une écrivaine, mais elle publie des ouvrages qui font du bruit, qui sont appréciés, qui sont très populaires, bien sûr, puisque l'aura de son mari rejaillit inévitablement sur elle et inversement, je dirais. Donc voilà pour le Lindbergh. Par ailleurs, Lindbergh, à la suite de ce drame familial, les Lindbergh émigrent en Europe. Et là, Lindbergh éprouve une fascination croissante pour l'Allemagne fasciste, dans laquelle il se rend à plusieurs reprises. Et en fait, il a été mandaté par l'armée américaine pour évaluer l'avance de l'aviation allemande. Mais en fait, il éprouve de plus en plus de sympathie pour le régime, à tel point que Göring, qui est alors maréchal de l'air, le décore d'une médaille, je crois que c'est médaille de l'aigle allemand, que l'Allemagne réserve aux étrangers qui ont bien œuvré pour elle.
Donc là, on est toujours dans
le personnage historique.
Oui. Hein.
Et donc Lindbergh retourne aux États-Unis et là il prend des prises de position. Là il adopte des positions ouvertement fascistes, antisémites. Il s'appuie sur le Bund, hein, qui est donc un mouvement fasciste, un puissant mouvement fasciste composé en majorité d'émigrés allemands. Il s'appuie sur America First, donc qui est le principal lobby isolationniste. Donc, qui milite pour maintenir les États-Unis en dehors du conflit qui se déroule à ce moment-là en Europe. Et donc, il devient un personnage de moins en moins recommandable, si je puis dire.
Et il se trouve que, à ce moment-là, Roosevelt se prépare à candidater pour un troisième mandat.
Ce qui est inédit.
Voilà, parce qu'aux États-Unis, on considère que 2 mandats, en général, ça suffit. Il y a une tradition.
Absolument.
Qui veut que on ne réélit pas une troisième fois la même personne. Et du côté des Républicains, est envisagée, mais visiblement de manière très furtive, l'idée de introniser, comme plus tard Trump a été intronisé comme ça de manière un petit peu étonnante, d'introniser Lindbergh.
Oui, ce qui n'a pas eu lieu.
Ce qui n'a pas eu lieu.
Et en fait, Philip Roth se pose la question. En fait, il dit que l'idée du roman lui est venue en lisant un historien américain, Schlesinger, qui évoquait ce dont vous parlez, le fait qu'on a pu envisager d'investir Lindbergh comme candidat républicain.
Il écrit dans la marge, et si c'était arrivé?
Voilà. Et il se dit, et si c'était arrivé? Et si ça s'était passé? Et la réponse à cette question, c'est le complot contre l'Amérique.
C'est le premier soir moite de l'été et on a laissé les fenêtres ouvertes dans toutes les pièces. Sandy et moi ne pouvons nous empêcher de continuer à écouter depuis notre lit la suite des événements que diffuse, outre la radio du séjour, celle des voisins du dessous. Et même, car l'allée qui sépare les maisons est tout juste assez large pour laisser passer une voiture, celle des voisins de gauche, de droite et d'en face. Comme cela se passe longtemps avant que les climatiseurs installés sous les fenêtres ne couvrent les bruits du quartier par les soirs tropicaux, l'émission plane sur tout le pâté de maisons délimité par Kerr Street et Chancellor Avenue. Un pâté de maisons où l'on ne trouverait pas un seul républicain, ni dans les quelques 30 pavillons à 3 logements, ni dans le petit immeuble neuf au coin de l'avenue. Dans les rues comme la nôtre, les juifs ont voté démocrate sans hésiter, tant que FDR est resté tête de liste. Mais nous ne sommes que des gosses, et le sommeil nous gagne. Nous ne serions sans doute pas réveillés avant le matin sans l'entrée impromptue de Lindbergh sur les planches de la convention à 3h18, alors que les Républicains étaient dans l'impasse au 28e jour. Le beau héros, grand, mince, agile, athlétique, même pas quadragénaire, a gardé sa combinaison d'aviateur car il vient de poser son appareil à l'aéroport de Philadelphie quelques minutes plus tôt. À sa vue, une vague d'enthousiasme rédempteur racaillardit les Républicains. Ils se lèvent d'un bond pour crier « Lindy, Lindy, Lindy » pendant 30 minutes de triomphe, le tout sans être interrompu par le président de séance. C'est ainsi qu'à 4h du matin, le vendredi 28 juin 1940, le Parti républicain investit par acclamation le candidat nationaliste qui a préféré dénoncer les Juifs aux auditeurs de toute la nation comme d'autres peuples usant de leur influence énorme pour mener le pays à la destruction au lieu de reconnaître en eux une toute petite minorité de citoyens écrasés en nombre par leurs compatriotes chrétiens, des Juifs que, sauf exception, le préjugé religieux exclut de la sphère publique et qui ne sont certes pas moins loyaux envers la démocratie américaine qu'un admirateur d'Adolf Hitler. Non. Voilà le mot qui nous tire du sommeil. Un non crié par une voix mâle dans toutes les maisons du coin. Impossible. Pas comme candidat à la présidence des États-Unis.
Extrait donc du complot contre l'Amérique par la voix de Guillaume Gallienne, avec cette scène où le narrateur enfant apprend donc la désignation de Lindbergh par la convention républicaine, par cette espèce de rumeur qui monte dans le quartier juif protecteur que vous décriviez, Paul Lévy. Là, on a la peur qui monte d'un cran et on se rend bien compte de l'art du roman de Philip Roth qui, en effet, arrive à raconter la grande histoire, bon, qui devient fictive à ce moment-là, mais par les yeux non seulement d'un enfant, mais enfin les yeux d'une famille, par les yeux d'une communauté aussi.
Oui, je crois que ce qui ressort de tous les extraits qui viennent d'être lus, c'est la façon presque, enfin, remarquable, j'ai presque envie de dire magique, dont Philip Roth entremêle la grande histoire. Georges Perec parlait de l'histoire avec une grande H.
Oui.
Donc la grande histoire et la petite histoire. Donc la grande histoire, celle de l'élection fictive de Lindbergh, et la petite, celle de la famille Roth, qui se trouve tout à coup emporté, débordé par cette histoire. Voilà.
Il y a un côté un peu école des annales dans la façon dont il part justement des personnes qui ne font pas l'histoire, enfin qui ne sont pas entre guillemets les grands hommes ou les grandes personnalités, mais en partant comme ça, des effets finalement que ça a sur la population.
Oui, d'ailleurs à un moment, le père Roth dit à son fils, tu sais, l'histoire, c'est aussi ce qui se passe ici, à Summit Avenue, à Newark. Donc oui, il y a ce côté école des annales dans la mesure où il s'agit de mettre en scène des gens tout à fait ordinaires. Hein. Ce petit monde de Newark, ce sont des tout petits cadres, des employés, des ouvriers. On voit même les vauriens qui traînent dans le quartier, les mauvais garçons. Donc c'est tout un petit monde, hein, qui un microcosme de l'Amérique en fait.
Est-ce qu'il a une manière de penser l'histoire, selon vous, Philip Roth, ou de penser la façon de la raconter, un point de vue ?
Façon de penser l'histoire, j'en reviendrai à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que pour lui, vraiment, l'histoire, c'est l'irruption de l'imprévisible dans le cours normal des choses. Hein, c'est ce qui va fragiliser ou détruire les vides des individus qui se trouvent pris dans ce flux tumultueux et incontrôlable de l'histoire. Alors, et surtout imprévisible.
Qu'est-ce qui va se passer alors après l'élection fictive de Lindbergh pour cette pauvre famille Roth?
Oh là là, ça va de plus en plus mal. C'est-à-dire que, alors, sur le plan de la grande histoire, donc, tel que Philip Roth l'imagine, Lindbergh, dès son accession au pouvoir, va signer un pacte de non-agression, d'abord avec l'Allemagne hitlérienne, puis avec le Japon, puis il va mettre en œuvre une politique systématique de discrimination à l'encontre des Juifs. Enfin, ce qui est Dans l'extrait qu'on a écouté, ce qui m'a frappé, c'est le réalisme avec lequel Philip Roth dépeint cette espèce de désarroi, de stupeur, de mélange de colère, d'incrédulité, voire de sidération qui saisit ce petit monde des Juifs de Newark.
Le scrutin de novembre n'avait même pas été serré. Lindbergh avait remporté 57% des suffrages populaires et grâce à un effet boule de neige conquis 46 États. Il n'avait perdu que celui de New York, où Franklin Roosevelt était chez lui, et celui du Maryland par 2000 voix seulement, car la population de fonctionnaires fédéraux avait massivement voté pour Roosevelt, qui y avait conservé en outre, comme nulle part ailleurs au sud de la Mason-Dixon Line, la fidélité de près de la moitié des démocrates de cette vieille circonscription sudiste. Le lendemain de l'élection, c'était l'incrédulité qui dominait, surtout chez les sondeurs. Mais le surlendemain, toutes les paupières s'étaient dessillées. À la radio, comme dans les journaux, pour les commentateurs, la défaite de Roosevelt semblait écrite. Les Américains n'avaient pas voulu rompre avec la tradition des deux mandats au plus, instituée par George Washington, et qu'aucun président n'avait osé remettre en question jusque-là. En outre, sur les décombres de la crise, l'assurance renaissante des jeunes comme des vieux s'était vue dopée par la jeunesse relative de Lindbergh et par ses allures de sportif délié si diamétralement opposé au handicap physique de Franklin Roosevelt, séquelle de la polio. Et puis, il y avait le miracle de l'aviation et du nouveau mode de vie qu'elle promettait. Lindbergh, qui détenait déjà le record du vol long courrier, serait bien placé pour guider ses compatriotes sur la voie inconnue d'un avenir aéronautique, tout en leur assurant par ses manières vieux jeu et même collémontées qu'il n'y avait aucun risque de voir les succès de la technologie moderne éroder les valeurs de la tradition.
Une analyse quand même dans cet extrait lu par Eric Caravaca de la politique comme elle va se faire peut-être de plus en plus, c'est-à-dire à partir des médias. Philip Roth explique bien comment dans son roman on oppose un jeune homme qui vole dans les airs avec un homme âgé qui est atteint de la polio. Et ça joue beaucoup dans l'élection de Lindbergh, en tous les cas, dans le roman de Philip Roth.
Oui, bien sûr. Et puis, Philip Roth, vraiment au fil du roman, insiste sur la dimension de mise en scène de ces campagnes américaines. Alors, Lindbergh a une façon assez particulière de faire campagne, c'est-à-dire que il prend son avion et puis il survole l'Amérique et il se pose de ville en ville. Et là, il harangue les foules suivant un scénario qui a été en fait très soigneusement préparé. Et donc oui, il y a toute cette satire de l'image médiatique. Hein. Lindbergh est beau, il est athlétique, il est à rien, il faut le dire. Et par opposition à Roosevelt, avec l'infirmité qu'on lui connaît, oui.
Mais il est aussi immature, ou présenté comme étant immature. Justement, ce côté faire la campagne comme ça sur les champs d'aviation, il y a quelque chose d'un peu gamin. Enfin, c'est présenté comme ça.
Ah oui, il est présenté comme presque pusillanime hein, par moment. Et bon, alors évidemment, les parallèles sont tentants. On y viendra, j'imagine. Mais oui, en fait, ce n'est pas un homme politique. Rien ne le destinait à ce rôle politique. Et il est investi d'une fonction qu'il n'est absolument pas apte à assumer. Donc, il fait un peu tout et n'importe quoi, si je puis dire. Mais ce qu'il fait est redoutable, puisqu'il prend des mesures qui sont épouvantables.
Donc on est face là à un personnage de toute évidence populiste.
Oui, populiste absolument, démagogue.
Démagogue. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il était adolescent, Philip Roth disait qu'à 16 ou 17 ans, il était sous le charme de la rhétorique populiste née de la crise
et de la guerre, du patriotisme ambiant. Est-ce que finalement il n'a pas d'autant mieux saisi la séduction du populisme que lui-même, dans sa jeunesse, dit l'avoir un petit peu ressenti? Enfin, peut-être qu'on peut encore une fois ne pas lui faire confiance parce que c'est un romancier, mais qu'en pensez-vous, Paul Lévy?
Bon, moi, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est le mot rhétorique. Donc, Philip Roth aime la rhétorique, oui. Alors, je crois que c'est un peu différent. En fait, Philip Roth grandit dans cette atmosphère de ferveur patriotique des années 30-40. Et c'est une ferveur que viendra renforcer par la suite la prise de conscience des horreurs de la Shoah. Et d'où cette gratitude, vraiment, pour cette Amérique qui avait préservé les Juifs du pire. Mmh. Mais d'ailleurs, on peut presque lire le complot contre l'Amérique comme une variation, une approche oblique de la Shoah. Ces scènes qui viennent d'être lues, où l'on voit les gens descendre dans la rue en pyjama, en pantoufles, errer, hagards, ça évoquerait presque des scènes de rafle, vous voyez. Certaines mesures que prendra Lindbergh, enfin le Lindbergh imaginaire de Philip Roth, évoquent bien sûr les différentes étapes qui ont mené à la solution finale. C'est-à-dire que d'abord, Lindbergh va envoyer des jeunes gens juifs dans les Midwest, hein, dans au cœur de l'Amérique, si je puis dire.
C'est une sorte de déportation.
Oui, au début, non. Au début, c'est basé sur le volontariat. Donc, il s'agit d'apprendre ce qu'est le terroir américain. On envoie les enfants dans des fermes où ils vont découvrir ce que c'est, la vraie Amérique, entre guillemets. Et puis, le stade suivant, c'est d'envoyer des centaines de milliers de familles juives, justement, dans les Midwest, suivant une stratégie, en fait, tout à la fois d'isolement. En fait, il s'agit de les déporter, ni plus ni moins. Hein. Suivant une stratégie d'isolement et d'internement. Et c'est bien sûr un préalable à la mise en œuvre d'une solution finale, entre guillemets, quand le pays y sera préparé. Donc Lindbergh fait les choses pas à pas, comme Hitler les avait faites pas à pas.
Oui. Alors du coup, sur cette question de l'antisémitisme de Lindbergh, il y a des passages dans le livre qui sont intéressants, parce que c'est le moment où le père de Philip Roth emmène toute la famille à Washington.
Ah oui.
Parce que c'est Washington, le berceau de la démocratie américaine, et qu'il faut finalement éduquer les enfants et leur montrer la belle mécanique finalement de cette démocratie américaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça, Paul Lévy, ce qui se passe?
Oui, c'est un épisode très poignant du livre où donc les parents Roth emmènent leurs enfants à Washington pour leur montrer les hauts lieux de la démocratie américaine. Alors, je crois qu'il y a la Maison Blanche, le Capitole, le mémorial, le Lincoln Memorial. Et en fait, il s'agit d'éduquer les enfants dans cette ferveur patriotique. Et en fait, à Washington, la famille Roth essuie des remarques ouvertement antisémites. Et ils se font même expulser de l'hôtel qu'ils avaient réservé parce qu'ils sont juifs. Et ce qu'il y a de très, très fort dans cet épisode et la façon dont il est relaté, c'est que tout est vu au travers des yeux de l'enfant qui voit ses parents, son père en particulier, humilié, réduit à l'impuissance, réduit à gesticuler ou à bafouiller ou à baisser la tête.
Mais est-ce finalement qu'il n'y a pas une certaine fierté aussi pour ce père qui ne renonce pas, malgré tout, à être qui il est et à l'afficher, à l'affirmer?
Bien sûr, il y a de la fierté, il y a de l'admiration, mais il y a aussi, de la part de l'enfant, une lucidité. Il se rend compte que son père gesticule en pure perte et qu'il est un objet soit de mépris, soit de dérision pour les gentils.
He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah.
La compagnie des œuvres sur France Culture, nous parlons du livre Le complot contre l'Amérique dans cette semaine américaine sur France Culture avec vous, Paul Lévy. Parlons peut-être un petit peu de la manière dont ce livre a été écrit, parce que Philip Ross a à la fois fait des mémoires et en même temps une fiction, mais il a voulu que les deux s'entremêlent absolument pour rendre la chose la plus vraisemblable possible. Comment a-t-il travaillé ?
Il mélange. Il mélange deux choses. D'une part, une histoire purement fictive, une contre-histoire, hein, puisque, comme je l'ai dit, en fait, c'est Philip Ross construit de roman en roman presque une contre-mythologie américaine. Donc, d'une part, là, une contre-histoire, une vision dystopique de l'histoire américaine et de l'Amérique. Et d'autre part, un récit qui se focalise sur sa famille à lui.
Mais justement, il s'est mis dans cette idée de raconter sa famille et de mêler le vrai avec le faux pour créer cet effet de vérité.
Absolument.
À tel point qu'il s'est sans cesse demandé, non pas qu'est-ce qui va se passer ensuite, mais qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quelle est la nuance entre ces deux questions?
Il dit, si j'ai pris ma famille, c'est pour accentuer cette impression de réalité et pour analyser encore mieux les réactions d'une famille juive lambda face à ce déferlement de l'histoire qui fracasse leur vie. Il se donne pour tâche de se rappeler ce qui ne s'est pas passé. C'est-à-dire que l'écriture se fait très paradoxalement invention du souvenir.
Mais comment ça marche, ça? Comment on fait ça pour se rappeler de ce qui n'est pas arrivé? Il faut se concentrer beaucoup.
Ben, il faut être Philip Ross, je crois. Hein. Cela demande beaucoup d'imagination et beaucoup de maîtrise, hein, beaucoup de maestria. Je crois que c'est un roman assez remarquable, en fait. Et Philip Ross dit avec beaucoup d'humour, c'est en fait le plus autobiographique de mes romans.
Oui, mais il faut se mettre dans un état psychique très particulier, c'est presque chamanique, là, pour se rappeler de ce qui n'est pas arrivé.
Oui, en quelque sorte, oui, tout à fait, oui.
Alors, il y a d'autres techniques dont il a parlé, parce qu'il a commencé, Philip Ross est quelqu'un qui travaillait énormément,
oui,
il a commencé par travailler 5 ou 6 mois sur ce livre, et puis il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas.
Oui, oui. Au début, il campe uniquement sa famille, c'est-à-dire le père, la mère, son frère aîné, Sandy, et lui-même, le petit Philippe. Chacun avec leur personnalité propre. Le père qui est un farouche défenseur des valeurs démocrates, qui gesticule beaucoup, en fait, qui fait de grands sermons. La mère qui essaye tant bien que mal de préserver l'équilibre du foyer. Son frère Sandy, qui est passionné de dessin. Et lui-même, le petit Philippe, qui chérit sa collection de timbres.
Comme Roosevelt,
nous voilà. Dit-il. Roosevelt aussi était un très grand collectionneur. Et au début, il campe seulement sa famille et il s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ça ferait porter la charge du pathos uniquement sur le petit Philippe. Et ça, Philip Ross ne veut pas. Mm-hmm. Donc il va introduire à côté de ses deux enfants, Sandy et Philippe, tout un petit monde de gamins, notamment un voisin qui s'appelle Selden Wishnow. Le nom de famille est assez emblématique, Wishnow. Oui.
J'espère maintenant.
Oui, voilà, c'est ça. Et ce Selden Wishnow, c'est un enfant... empoté, bébête, pot de colle, et le petit Philippe n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser, en fait. Oui. Et que cet enfant, le laisse tranquille. Et lorsque Lindbergh décide de déporter, en quelque sorte, certaines familles juives américaines dans le Kentucky, le petit Philippe va voir sa tante, qui, elle, a choisi le camp des « collabos », entre guillemets.
De Lindbergh.
Qui est très introduite parmi les proches de l'administration Lindbergh. Et il l'a pris d'envoyer le petit Selden à sa place, faisant ainsi d'une pierre deux coups. D'une part, sa famille est préservée de cette « déportation », entre guillemets, et d'autre part, il serait débarrassé de Selden. Et ce qui arrive, en fait, c'est que Seldon, il faut le dire, est déjà orphelin de père, hein, puisque son père s'est suicidé. Et en fait, il y a à Détroit des pogroms. La violence va croissant. Il y a un pogrom à Détroit en 1942, bon, purement imaginaire, bien sûr, au cours duquel la mère du petit Seldon est assassinée. Et donc, on imagine la culpabilité de Philip.
Voilà, donc c'est ça qui l'intéresse, c'est ça qui a relancé finalement la possibilité pour lui
d'écrire. Voilà, c'est-à-dire qu'il se campe en fait en traître.
Voilà, et là du coup, ça le motive
et là, ça...
pour écrire, ça, c'est un bon moteur.
Voilà.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on dise un tout petit mot, peut-être des ambiguïtés de la réception de ce livre.
Oui.
Paul Lévy, il a été finalement assimilé... À tort, après on a le droit de voir ce qu'on veut dans chaque fiction qu'on lit, mais au mandat de George Bush, le fils.
Oui, alors en fait, on a voulu y voir, au moment où il est sorti, une critique à peine voilée des dérives de l'administration Bush.
Parce que c'est sorti en 2004.
Voilà, donc
juste pendant la guerre en Irak.
Voilà. Hein, donc c'est au moment du Patriot Act, c'est l'état d'urgence, au nom de la sécurité de l'État, on prend diverses mesures très autoritaires en fait, et il y a des limites à la liberté, aux libertés individuelles, et donc les critiques ont eu tendance à voir ce livre comme vraiment une critique de cette administration Bush.
Ce qui aurait été mieux finalement pour l'administration Trump, en fait, ça collait presque plus, de manière plus logique, non ?
Alors déjà, donc Philip Roth s'en est défendu. Il a dit non. Ce que j'écris, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui ne s'est pas passé. J'ai une citation sous les yeux. Je cite : j'écrivais le cauchemar auquel l'Amérique avait échappé à l'époque et pas celui. Mais là, il se trahit lui-même, puisqu'il dit « et pas celui qu'elle est en train de vivre aujourd'hui ». Donc, en fait, évidemment, là, il dévoile la dimension satirique et spécifique de son roman.
Il faut rappeler que Philip Roth est démocrate. Il
oui,
a toujours dit qu'il était démocrate.
Oui,
démocrate.
Bien sûr. Oui, oui. Et bien sûr, alors après, dans les années qui ont suivi, on a eu tendance à lire ce roman comme prémonitoire en quelque sorte, et comme une sorte de prophétie des années Trump. Bon, c'est vrai que c'est assez tentant, je dois dire.
Mais il ne s'est pas lui-même exprimé une fois, enfin il est mort, il a connu quand même un petit peu
oui.
Les premiers mois de l'administration Trump, mais lui-même n'a jamais fait le parallèle entre son roman et puis ce qui est arrivé à l'Amérique.
Il ne l'a jamais fait explicitement. Mais tout de même, dans ses entretiens, il ne se prive pas de dire tout le mal qu'il pense de Trump. Hein. Et il va même jusqu'à dire « Mais comment pouvez-vous comparer le complot contre l'Amérique à ce qui se passe actuellement ? Ce qui se passe actuellement, c'est bien pire. Lindbergh, après tout, était un fasciste, mais c'était un héros, c'était un homme courageux, c'était un génie de l'aéronautique, alors que Trump n'est qu'un idiot, un bouffon, un ignare. Il lui prête, je crois, 77 mots. » de vocabulaire. Et
Enfin, il n'a pas déporté qui que ce soit encore. En tout cas, pas que
bien
je
sûr
sache.
Que non. Mais là, je vous cite les propos de Philip Roth.
Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces mots. Paul Lévy, je rappelle que vous avez donc rédigé à la fois l'introduction de l'édition de la Pléiade des romans et nouvelles de Philip Roth des années 1959 et 1977. Et puis aussi un essai sur la pastorale américaine. On termine cette émission par une chronique européenne.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et c'est avec vous Mathieu Roger Lacan du magazine en ligne Le Grand Continent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu.
Le Grand Continent qui prend le pouls dans sa chronique littéraire européenne de l'état d'esprit des romanciers aux quatre coins de l'Europe, et cela en devançant parfois les traductions en français.
Je me souviens d'une paix d'un genre que je ne connus jamais plus. Ce sont les mots de la toute récente prix Nobel de littérature Louise Gluck dans un poème dont la traduction inédite est parue dans Le Grand Continent au lendemain de sa nomination. Ces vers résonnent étrangement, il me semble, avec la situation que nous vivons aujourd'hui, alors que nous sommes progressivement coupés de ce que nous tenions pour acquis, le monde d'avant le Covid par exemple, ou encore celui qui précédait les attentats terroristes que nous connaissons depuis plusieurs années. Littérature et politique, c'est le thème de la semaine. Je vous propose donc un dossier tiré des chroniques littéraires de la revue en ligne Le Grand Continent au sujet de la mémoire de l'effondrement de l'URSS dans la littérature contemporaine des anciens pays du bloc de l'Est. Cette mémoire pourrait sembler anachronique aujourd'hui, mais elle hante pourtant les productions littéraires biélorusses, polonaises ou encore roumaines les plus récentes.
Alors commençons d'abord par la Pologne.
La Pologne tout d'abord. Le roman de Maciej Marcic, dont le titre pourrait se traduire en français par « Les cassettes familiales » paru en 2019, fait retour sur l'expérience particulière des années 1990 en Pologne. Les cassettes familiales, les cassettes VHS, cette invention technologique de la fin des années 70 qui nous paraît préhistorique aujourd'hui, servent de métonymie pour décrire ce temps révolu et étrange qu'a représenté le passage brusque de l'austérité et des privations de la période communiste à une dérégulation généralisée des comportements et du rapport à l'argent. Cette cassure est incarnée dans le roman par la relation entre un père qui a grandi sous le régime communiste et fait fortune à sa chute, et son fils, qui revient sur les traces de son enfance pendant cette période de transition, alors qu'il apprend que son père a décidé de le déshériter.
Autre pays, autre romancière, la Roumanie, avec Veronica Niculescu.
La romancière Veronica Niculescu, née en 1968, décide quant à elle d'offrir une perspective strictement féminine sur la Roumanie des années 1980, au moment où le régime de Ceausescu est devenu le plus brutal et le plus irrationnel. Dans un roman intitulé « Tous les enfants de la libraire », ce serait son titre en français, paru en 2020. La condamnation pénale de l'IVG par le régime de Ceausescu sert de catalyseur à l'intrigue qui nous plonge dans la vie fragile et émouvante de Sylvia, une adolescente condamnée comme tant d'autres à subir un avortement clandestin dans des conditions très périlleuses, puis ramenée à la vie par son travail de libraire qui lui permet de trouver une convalescence dans le dialogue avec les œuvres en particulier de Borges et de Tchekhov. Ce va-et-vient entre la tragédie et l'insouciance donne toute sa couleur à la restitution personnelle d'une expérience historique et politique.
Et puis la dernière leçon, elle nous vient de Biélorussie.
En effet, le Grand Continent exhume un texte de la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, qui date de la sortie de son roman La fin de l'homme rouge, de son récit La fin de l'homme rouge, paru en 2013, pour le mettre en regard avec des images prises par une photographe contemporaine dans les manifestations menées contre Alexandre Loukachenko. Ce jeu de collage offre une perspective nouvelle sur les événements contemporains et jette en même temps une lumière plus actuelle que jamais sur la méditation littéraire d'Alexievitch, sur la désorientation des sociétés post-soviétiques après la chute du mur. Cet exemple nous montre aussi que le destin littéraire des questionnements politiques est affaire de patience, parfois de maturation lente, et souvent tributaire d'effets générationnels. Je terminerai en la citant. Au début, nous avions l'impression que nous nous insérerions facilement dans ce monde. Les gens espéraient, nous aurons les mêmes vitrines, les mêmes magasins. Les intellectuels pensaient qu'ils allaient d'un coup, facilement, se retrouver au niveau de l'élite internationale. Mais il s'est avéré que tout cela n'allait pas de soi. Que cela représentait un travail énorme, qu'il fallait agir en personne libre que nous n'étions pas, avec une liberté de pensée que nous n'avions pas. Et nous nous sommes retirés du monde.
Merci Mathieu Roger Lacan. Vos dossiers et chroniques littéraires sont à retrouver sur legrandcontinent.eu. C'était la Compagnie des œuvres, Didier Pinoine, Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Romain Billet et Anthony Thomasson. Demain, ce sera la suite de notre semaine américaine avec une analyse du roman sudiste très controversé « Autant en emporte le vent » de Margaret Mitchell. Nous serons pour ce faire avec Josette Chiche-Portich et Taina Tukunen. Tout de suite, les sciences.